comme certains s'en sont aperçus, je ne suis pas Pierre Dharréville. Il a pris un peu de poids. Et il a perdu 4-5 cm. Ouais, ouais, ouais. Oh, c'est gentil, hein, je reviendrai. Je suis Fabien Guillot-Bataille, je suis le secrétaire départemental du Val-de-Marne. Et je suis aussi le responsable national des questions de sécurité et de police. Je travaille dans la commission qu'anime Pierre Dharréville au niveau national sur la question de la démocratie, des libertés. Et comme il a été retenu à Marseille pour des raisons de travail, hein, il nous fait pas juste faux bon pour se reposer, il m'a demandé de le remplacer. Voilà, donc à mes côtés, je vous présente Marion Lagaillarde, qui est membre du syndicat de la magistrature et qui nous fait le plaisir d'être parmi nous ce matin pour justement aborder donc cette question que vous avez pu lire sur le programme « Terrorisme et liberté ». Pour dissiper tout malentendu, et comme ça ceux qui sont venus discuter de ça peuvent aller à un autre appelé, non je plaisante. Le débat de ce matin, il n'est pas de traiter de la question terroriste, qu'est-ce que c'est, comment on la comprend, etc. Il y avait d'autres ateliers qui traitaient du sujet. Juste avant, il y avait un atelier, par exemple, sur Daesh. Voilà. Notre question, là, c'est de regarder ensemble, évidemment, avec Marion qui va nous faire sa présentation. Quels sont aujourd'hui les dispositifs qui se mettent en place au niveau légal, législatif? Il y a eu des lois qui ont été votées au fin du printemps dernier, notamment à l'Assemblée, très, très importante et très inquiétante pour les libertés de chacun. Et c'est de regarder ensemble comment... à travers ce terme de terrorisme, cette notion politique du terrorisme, on est en train de modifier fondamentalement à la fois des rapports sociaux, mais aussi la législation française et même le droit. Mais bon, ça, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Tu le feras certainement bien mieux que moi. Donc voilà. C'est ça le thème de notre débat. Je pense que c'est un débat qui est important qu'on ait, parce qu'il y a une vraie vigilance, je crois, aujourd'hui à avoir sur tous ces outils qui sont en train de se mettre en place. Et puis, pour conclure mon propos, juste une petite citation. Je ne vais pas prendre un grand gauchiste, mais plutôt un des pères fondateurs de la littérature américaine, Mark Twain, qui disait « Celui qui est prêt à renoncer à un peu de sa liberté pour plus de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre. » Je conclue là-dessus, je te passe la parole.
Alors, moi j'ai un peu de mal à forcer la voix, je ne sais pas si vous entendez. Manifestement c'est compliqué, je ne sais pas si on va pouvoir faire quelque chose au niveau du micro, je pense que ce serait beaucoup plus confortable pour tout le monde. Mais si on ne peut rien faire sur le micro, peut-être, il y a un peu de place pour faire. Après, je dis ça, voilà. Alors, ouais, j'ai l'impression que j'ai pas la voix qui porte assez. Hein. Je suis vraiment désolée. Je fais de mon mieux, en tout cas. Désolée de ça, et puis désolée aussi, Fabien vous l'a dit, l'intitulé Terrorisme et liberté, finalement, il est un petit peu déceptif, puisque j'ai pas grand-chose à dire, moi, du terrorisme comme pratique en tant que telle. Hein. J'ai peu à en dire. En tout cas, à titre personnel, je ne crois pas m'y livrer. La survenue d'actes terroristes, c'est un fait qui est indéniable, qu'il est sans doute très intéressant de pouvoir analyser, mais qui, en tout cas, ne coïncide pas nécessairement très exactement avec ce que l'institution judiciaire qui est chargée en démocratie de déterminer, de désigner ce que le droit réprouve, qualifie comme tel, qualifie de terrorisme. Moi, comme professionnelle du droit, comme magistrate, ce dont je peux parler, c'est de l'antiterrorisme. Et comme on va le voir, ça dit à la fois beaucoup et peu sur le terrorisme, et c'est en soi un problème que je trouve d'une certaine importance. Et ce qui est également un problème d'une certaine importance, c'est que l'antiterrorisme dit beaucoup, non seulement de l'architecture judiciaire-policière en France, mais aussi du système politique de façon générale. Carlo Santulli, qui est communiste au demeurant, qui est un professeur de droit d'origine italienne, a inventé une formule à la façon de Coluche. Il dit « Le terrorisme, c'est le mot qui désigne la violence des hommes pour faire peur aux autres hommes, et l'antiterrorisme, c'est le contraire. » Voilà. L'histoire récente du développement du dispositif étatique antiterroriste, qui est d'ailleurs, vous verrez, assez largement décorrélé des événements marquants de ce point de vue, c'est-à-dire des attentats terroristes qui sont survenus en France ou à l'étranger, montre en fait beaucoup plus le développement d'un support idéologique et technique d'un mode de gouvernance, et j'utilise cette terminologie un petit peu barbare à dessein, c'est-à-dire une technique de gouvernement qui est globalisante, politique, judiciaire, sociale, idéale, qui améliore la performance étatique, telle qu'elle répond en fait à une conception néoconservatrice de l'État. Dans la mesure en fait où l'État là est le juste échelon, ou du moins un des échelons pertinents pour sécuriser les marchés. Qu'est-ce que j'entends par néoconservatisme? Vous le savez sans doute tous, c'est l'idée, si, ou la pensée, si on peut appeler ça comme ça, qui allie libéralisme économique et conservatisme politique. C'est-à-dire que quand le capital ne peut plus s'appuyer sur les dispositifs sociaux du travail, qui ne peut plus garantir ses conditions d'existence sur le contrôle des populations via le plein emploi, via la sécurité sociale, via un horizon d'ascenseur social, il doit assurer ses conditions d'existence autrement, par le contrôle social qui est brut, sur un état policier, et où finalement les catégories populaires sont contrôlées par la force, par la menace, et non par le travail et par les dispositifs sociaux qui s'y rattachent. Et de ce point de vue-là, l'historique en fait de l'antiterrorisme en France est tout à fait révélatrice, puisque l'architecture globale de l'antiterrorisme date de 1986. Cette date, elle n'est pas anodine, elle correspond d'un côté évidemment à une suite d'attentats en 85-86 qui sont liés à la guerre du Liban, mais aussi ça correspond à la première cohabitation, ça correspond à un moment de consensus politique au fond qui se fait sur la question terroriste et sans doute en assez grande partie sur l'ensemble des questions de sécurité, non seulement en France mais peut-être aussi ailleurs. C'est la fin du mandat de Reagan, ça va être le début du mandat de Bush. Donc à ce moment-là, on est moins de 10 ans après l'arrivée au pouvoir de Mitterrand, et qui a supprimé la distinction entre détenus de droit commun et détenus politiques, qui a aussi supprimé la Cour de sûreté de l'État. Et comme ça, moins de 10 ans après, l'infraction de terrorisme prend une toute nouvelle définition, une toute nouvelle architecture. D'ailleurs, la Cour de sûreté de l'État, qui était sortie par la fenêtre, revient, mais sous un autre nom, la Cour d'assises spéciale antiterroriste, au fond, exactement la même chose. Cette nouvelle définition, elle prend de la distance avec l'acception traditionnelle liée au terrorisme de violence politique. En France, on n'est pas en Italie, on n'est pas en Allemagne, sans doute en France, on a une vision un petit peu différente de ce que peut être le terrorisme. Sans doute en France, dans les années 80, beaucoup de gens entendre dans violence politique quelque chose qui n'est pas complètement négatif, puisque peut-être certains ont des sympathies avec les brigadistes, avec la bande Abader, etc. Donc on évacue le vocable politique et on pose les premiers jalons d'un processus de construction d'un appareil d'État spécialisé et d'extension de poche, véritablement d'exceptionnalisme dans le droit, qui agit aussi bien sur des structures de pensée que sur des structures institutionnelles. Alors aujourd'hui, où on en est? Les lois antiterroristes, elles se sont succédées à un rythme très rapide. Il y en a eu plus d'une quinzaine depuis 86, avec ce début de cette architecture et cet outil phare dont je vous parlerai, qui est l'association de malfaiteurs à visée terroriste. Pour les plus marquantes, elles sont assez récentes. 2003-2004, la loi de sécurité intérieure et la loi Berben II. Et puis, en 2012, début de mandat Hollande, une loi antiterroriste qui met en fait en application les annonces de Nicolas Sarkozy suite à l'affaire Mera. Et puis, en 2014, d'abord en septembre, un décret qui est malheureusement passé assez inaperçu au départ, qui met en œuvre le PNR, c'est le Passenger Name Record. Ça veut dire que l'État a à disposition tous les fichiers des gens qui prennent l'avion, la traçabilité des déplacements des citoyens. En novembre 2014, une loi antiterroriste. Et en juillet 2015, la loi renseignement dont Fabien parlait. Le rythme s'accélère, la temporalité législative sur chaque loi est extrêmement révélatrice, puisque toutes, toutes ont été prises dans l'urgence. Urgence du discours et urgence du processus législatif, puisque c'était des procédures accélérées. Il y a un effet d'intensification affective, il y a un effet de sidération qui est lié à la terminologie de terrorisme. On dit terrorisme, il n'y a plus de possibilité d'avoir un débat parlementaire classique, il n'y a plus de possibilité d'avoir un débat au sein de la société, au sein de la société civile qui soit classique, puisqu'il y a une menace absolue qui est brandie, qui est terrifiante, c'est le terrorisme, qui est insidieuse, qui est imprécise, et donc on plaque une loi qui va être les moyens de parvenir à neutraliser un ennemi. Et ce vocabulaire guerrier, je ne l'invente pas, c'est Manuel Valls qui le dit, ouvrez les guillemets, il faut neutraliser l'ennemi, renforcer l'arsenal préventif au niveau de la répression pénale et au niveau administratif. C'est une nouvelle logique qui arrive en fait dans le droit pénal français, c'est une logique prédictive qui vise la neutralisation préventive, c'est-à-dire non pas un acte qui va se passer et qu'on va punir ensuite, on va prévoir, on va avoir une préscience administrative et judiciaire. Et au fond avec ça, il n'y a pas besoin de prison secrète ou de torture avec la musique de Britney Spears à fond.
Tentative de réparer le micro.
Ouais, peut-être, ce sera peut-être plus confortable. Donc pas besoin de ces tortures étonnantes-là pour se trouver dans un état juridique d'exception. On a tout un dispositif que je vais vous décrire, qui est une exception et qui est une exception qui devient permanente par effet de cliquet. Hein. À chaque fois qu'on a une loi plus sévère, eh bien jamais c'est possible de revenir en arrière. Et puis aussi par effet d'extension et de contamination, selon lequel les techniques qui facilitent le travail policier, les techniques qui facilitent le travail judiciaire vont être étendu de telle matière, le terrorisme, et au fur et à mesure essaimer, s'étendre dans le reste des matières juridiques, dans le reste des terrains. Pourquoi ? Sociologie des organisations, à la fois l'influence des groupes professionnels, parce que quand on a un outil super performant, on a envie de l'avoir pour tout et tout le temps, et puis selon une perception sociale et politique plus générale de la criminalité, qui est une menace de plus en plus pressante, quelle qu'en soit la nature, quelle qu'en soit la source. Donc mon propos, c'est de dire qu'autour de deux volets, donc le volet administratif et le volet pénal, l'antiterrorisme, en fait, fait système. Parce qu'il déploie d'un côté la surveillance et l'entrave administrative, et qui tire la vocation traditionnelle de maintien de l'ordre de la police administrative vers une vocation de plus en plus punitive. Et puis, de l'autre côté, une mutation du droit pénal vers un ressort qui est prédictif, qui le fait de plus en plus échapper, en fait, à son socle historique, qui est de répression a posteriori, de faits qui se sont effectivement matérialisés. En principe de droit, principe juridique, l'administration garantit les conditions de l'ordre public, et puis le judiciaire réprime les troubles si toutefois ils se sont manifestés. Et l'antiterrorisme actuel fonctionne pas comme ça. De plus en plus, la totalité de l'édifice pénal brouille les frontières en fait entre l'administratif et le judiciaire, et les deux systèmes deviennent des systèmes punitifs, et les deux systèmes travaillent au niveau de l'intention, au niveau de l'amont, au niveau de la prédiction, au niveau du risque, en fait. Et ils deviennent, les deux ensemble, non plus le droit, mais un dispositif de sécurité. Alors mon premier point, c'est un peu de description du dispositif pénal antiterroriste. Ce qui est intéressant de voir là-dedans, c'est comment ce dispositif pénal, il est à la fois complètement original, hors du commun, et à la fois complètement typique, même prototypique, c'est-à-dire qu'il est à la fois sans équivalent, mais qu'il vaut modèle, et qu'il vaut pôle d'attraction pour tout le droit. À trois niveaux, la qualification, c'est-à-dire qu'est-ce qui est le terrorisme pour le droit, qui est tourné autour de l'intention et qui ratisse extrêmement large, vous allez le voir. La procédure, je vous en dirai quelques mots, même si je vais essayer de ne pas vous noyer de technique, qui sont véritablement des super pouvoirs en termes procéduraux, et puis le dispositif professionnel qui est la mise en musique de ces grandes qualifications, de ces qualifications énormes façon pêche industrielle, et de ces super pouvoirs qui doivent évidemment être assurés par un pool de professionnels spécialisés. Alors, comment dire en droit d'un acte, quel qu'il soit, qu'il relève du terrorisme ? La technique juridique de qualification, c'est pas compliqué, c'est on confronte un fait à une catégorie qui est posée au préalable par la loi. Mais ici, en France, le fait de qualifier un acte terroriste n'est pas lié à l'acte matériel par lui-même, puisque quasiment n'importe quel acte matériel, n'importe quelle infraction peut être terroriste. L'assassinat, évidemment, les violences, évidemment, mais aussi des dégradations, le vol, le recel, etc. Tout ça est terroriste. Ce qui spécifie donc le terrorisme, au fond, c'est l'intention. Et c'est ça qui est unique en droit pénal, en fait, au niveau du terrorisme, c'est la centralité du mobile, qui est vraiment la dérogation absolue, en fait, hein, du droit pénal. Là, je vous lis le texte, c'est 421-1 du code pénal. Un acte relève du terrorisme s'il est intentionnellement en relation avec une entreprise ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Explication de texte, dans ce gloubi-boulga, je trouve. D'abord, la focalisation sur l'intention. Et puis, ce qui est rigolo, c'est de voir que le mot d'intention, il se distribue non pas à l'acte, mais à la relation. On est encore dans quelque chose d'encore plus distendu. Et puis le but, c'est quoi? C'est une accumulation de critères qui juridiquement sont complètement flous. Le trouble, on sait ce que c'est, en droit. L'ordre public, bon, c'est vague, c'est philosophique. L'intimidation et la terreur, là, c'est psychologisant. Et donc en fait, tout ça est en prise avec des déterminants qui, à l'arrivée, vont être complètement politiques. Ce qui est drôle, au passage, hein, c'est qu'aux États-Unis, dont on s'imagine qu'ils sont tout à fait en pointe sur une lutte dure contre le terrorisme, en fait, la définition française est beaucoup plus large que la définition américaine. Aux États-Unis, on dit que le terrorisme, c'est les actes qui sont commis sciemment dans le but d'affecter ou d'influencer le gouvernement par l'intimidation ou la contrainte. C'est pas extrêmement précis, c'est quand même bien plus précis que la définition française. Donc voilà, on a cette espèce de flou total de la qualification. Avec ça, on a la clé de voûte de l'arsenal répressif, qui est l'association de malfaiteurs à visée terroriste. Et là encore, pareil, je vous lis le texte, groupement formé ou entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels des infractions terroristes dont je vous ai la liste plus haut. Donc voilà, à nouveau, quelque chose de très vague. Et puis alors, encore mieux, la loi du 13 novembre 2014 introduit une nouvelle infraction. C'est la même chose que l'association de malfaiteurs à visée terroriste, sauf que c'est l'entreprise individuelle terroriste. Voilà. Sachant quand même que un ou plusieurs faits matériels, ça inclut des recherches sur Internet. Donc ça veut dire que quand on est plusieurs à faire des recherches sur Internet sur des choses qui sont rattachées au terrorisme, on peut tomber sous le coup de l'infraction d'association de malfaiteurs. Mais même quand on le fait tout seul, on peut être seul un entrepreneur individuel de terrorisme. Voilà. Il y a des critères un petit peu plus précis, mais qui sont globalement pas suffisants pour marquer véritablement une intention criminelle. Voilà où on en est dans cette confusion totale, en fait, sur les qualifications. Donc c'est très facile, en fait, de caractériser le terrorisme. C'est très facile, et c'est quand même très grave, puisque, en fait, ça a des effets, évidemment. Ça a des effets sociaux, puisque quand on dit de quelqu'un qu'il est terroriste, c'est une assignation à la dangerosité sociale absolue. Et puis, ça a des effets procéduraux, de soumission à un régime répressif de rigueur absolue. Donc, voilà, une infraction qui se définit politiquement. Sauf que, je vous le disais tout à l'heure, on a évacué le vocable politique lui-même. La dimension essentielle dans la caractérisation, c'est la dimension politique, sauf que c'est la variable d'ajustement. En 2008, on fait un sabotage ferroviaire, vous le savez tous, et pouf, on est terroriste. Et puis en 2013, on est en Bretagne, on a un bonnet rouge, on détruit un portique d'écotaxe, ça coûte de l'argent, etc. On le fait en s'appuyant quand même sur un discours politique qui est extrêmement assumé, etc. etc. Mais là, on n'est pas terroriste. On a juste fait une dégradation d'un bien public. Hein, voilà. Il faut dire quand même, la différence entre les deux, c'est peut-être une circulaire du ministère de l'Intérieur en 2008 qui a ciblé la mouvance anarcho-autonome comme étant un danger politique spécifique. Ah bon ? Donc voilà, le terrorisme comme ça, avec cette qualification, c'est une nouvelle frontière sociale entre le pur et l'impur, entre ce qui est acceptable et ce qui l'est pas, entre l'ennemi absolu et le citoyen qui peut exprimer une colère légitime. Vous allez voir que c'est tout à fait dangereux. Je veux dire, il y a des militants de la Confédération paysanne qui avaient fait des tags, etc., ils ont été taxés de terroristes verts par, je crois que c'était Éric Ciotti. Bon, la justice n'a pas suivi. Mais qui sait, hein, voilà. J'ai beaucoup d'exemples. On pourra en trouver des tas, hein, sur ce côté tout à fait politique et extrêmement flou de la qualification qui peut causer des difficultés énormes sur un plan politique. Voilà, en quelque sorte, quand on a volé, on le sait, mais quand on est terroriste, on ne le sait pas forcément, puisque finalement, ça va être tout un chaînage qui va déterminer qui est politique. Et en fait, c'est un juge qui va dire si on est terroriste ou non, mais à la suite d'un policier de la brigade antiterroriste, qui lui-même le fera à la suite d'un agent de renseignement. Et ce chaînage fabriquera comme ça, dans l'air du temps, une assignation sociale qui est gravissime pour les personnes. L'exemple du Thalys, ce qui s'est passé. Le jeune homme qui a essayé de tirer sur les gens dans le Thalys. Il plaide complètement sur l'intention. Il ne va pas dire « Ah non, j'ai pas essayé de tirer sur les gens ». Il dit « Mais voilà, mais moi je ne m'intéresse pas à la religion, moi je suis perdu, moi j'avais pas de travail, etc. etc. » Il continue d'avoir tenté de tirer sur les gens, l'acte matériel n'a pas changé, mais l'intention terroriste, si elle y est ou si elle n'y est pas, ça changera absolument tout sur la façon dont il sera traité juridiquement, procéduralement, quel juge il aura, combien de temps il va être en garde à vue, combien de temps, etc., etc. Et ça va tout changer. L'exemple de Tarnac aussi, sur ce qui fait la centralité de l'intention. Le procureur de la République a rendu son réquisitoire définitif, c'est-à-dire le moment où le procureur dit « je pense que l'infraction est telle ou telle ». Il l'a rendu récemment, au début de l'été. Et il a fondé tout son argumentaire juridique sur un ouvrage, « L'insurrection qui vient », qui est attribué à Julien Coupa. Peu importe au fond si l'acte manifeste vraiment l'intention, peu importe tout ça, en réalité ce qui compte c'était on peut attribuer une intention à cette personne-là et à partir de là cette personne-là sera terroriste. Et puis je voudrais arriver aussi, ça marche là ? Oh, ça marche ? Mais non, ça change rien.
Non, il va brancher.
Alors, on va voir.
Ouais.
Bon. Et puis je voudrais vous parler aussi d'un cas étonnant de transformation récente du droit autour de la notion de terrorisme, qui est l'apologie du terrorisme. Je pense que vous en avez tous beaucoup entendu parler, en particulier cet hiver, entre le mois de janvier et le mois de mars. L'apologie du terrorisme, ça a marché très fort. Alors avant 2014, l'apologie du terrorisme, ça appartenait à l'univers de la liberté d'expression. La question, c'était de faire la balance entre ce qui peut être ou non exprimé publiquement dans le cadre de la République. C'était sans risque pénal très lourd pour l'auteur. La question de la peine de prison était plutôt mise de côté. Et puis, à partir de 2014, la loi dont je vous parlais, l'apologie du terrorisme sort de la loi de 1881 et se rattache à la galaxie antiterroriste. Exit la liberté d'expression. Bonjour l'antiterrorisme. Et à la fois l'enjeu comme les effets changent complètement. La procédure, quand on est dans la loi de 1881, est très garantiste, c'est-à-dire que c'est exigeant pour l'accusation de venir reprocher à quelqu'un quelque chose au niveau de l'apologie du terrorisme. C'est peu favorable à une répression qui tende au champ de la privation de liberté. C'est une question d'équilibre des valeurs sociales. Quand on est sur le terrain de la parole, on ne va pas venir chercher quelqu'un sur le terrain de la privation de sa liberté. On ne va pas mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour la mener en ligne directe jusqu'à la prison. Avec cette sortie de ce régime-là et ce changement de régime juridique, en matière d'apologie du terrorisme, il y a eu en 2 mois plus de condamnations qu'en 20 ans. Voilà. Et beaucoup de condamnations à des peines de prison ferme. Pourquoi ? D'une part, il y a la sensibilité des juges à l'air du temps, des circulaires aussi, hein, qui ont été diffusées dans la justice. Et puis surtout, il y a une procédure. Comment ça se passe en matière d'apologie du terrorisme ? Le premier point, c'est le traitement en temps réel de l'infraction. C'est-à-dire qu'on a le policier au téléphone. Je suis procureur, j'ai le policier au téléphone. Allô, Jean-Marc. Le policier qui explique les choses en quelques mots, parce que quand même ça va très vite, hein, traitement en temps réel. Là, le procureur qui a reçu des instructions par circulaire d'avoir une punition sévère, amène la procédure sur le terrain de la comparution immédiate. Et la comparution immédiate, c'est la voie royale pour l'incarcération. C'est comme ça qu'est prévue la procédure. Et donc voilà notre apologue du terrorisme qui est, bah, comme vous le savez, la personne qui a crié dans le tramway. Un slogan provocateur qui était à la mode. Alors, je justifie pas, hein, mais c'est quand même une question d'équilibre peut-être qui se retrouve en comparution immédiate dans ces rails tout tracés pour la prison et à l'arrivée qui s'y retrouve en prison.
Voilà, donc sur la base de cet exemple, mon deuxième point, la procédure, les implications sont faciles à comprendre en fait. Hein. Sur la base de cet exemple, des faits procéduraux qui sont extrêmement puissants et d'une technicité qui n'est absolument pas neutre. Alors, je ne vais pas m'étendre hein, sur les pouvoirs d'enquête, les pouvoirs d'enquête spéciaux, mais quand même, l'antiterrorisme permet tout un tas de possibilités, infiltration, écoute, enquête sous pseudonyme, écoute, vidéosurveillance, surveillance de l'activité sur Internet, des conditions facilitées de perquisition, une durée de garde à vue extrêmement étendue, c'est-à-dire jusqu'à 120 heures, 5 jours, une intervention de l'avocat qui est repoussée possiblement jusqu'à la 96e heure, 4 jours, tout seul, en garde à vue, sans avoir vu son avocat, des conditions d'entrée dans la détention provisoire qui sont facilitées, etc., etc. Bon, comment tout ça est mis en musique, entre la qualification extrêmement large, les pouvoirs d'enquête énormes, un dispositif professionnel qui est véritablement celui d'une chaîne pénale hyper spécialisée. Alors, c'est pas complètement incongru, effectivement, hein, de confier ce contentieux très spécifique à des gens qui sont pas les premiers venus et qui s'y connaissent un petit peu, sauf que cette surspécialisation, elle a évidemment des effets délétères. Pourquoi ? Parce que le pôle antiterroriste, il y en a un seul en France, il fonctionne complètement en vase clos, non seulement au niveau des procureurs et des juges, mais aussi au niveau de la police. C'est-à-dire que la brigade antiterroriste de police, elle est spécialisée, les gens se connaissent bien, ils travaillent tous ensemble, et c'est très difficile de remettre en cause tout un maillage, tout un chaînage, en fait, de décisions qui se succèdent, et on ne remet pas en cause, très très concrètement, ce que le précédent échelon vous a donné à manger. Donc voilà, ça se passe comme ça. Et l'effet d'assignation se poursuit et se renforce de lui-même dans ce pôle antiterroriste. Donc on a là, finalement, tout l'antiterrorisme judiciaire qui est une zone d'exercice de la contrainte qui est absolument sans équivalent. C'est assez rigolo, hein, parce que dans l'exposé des motifs de la loi renseignement, l'idée de Jean-Jacques Urvoas, c'était de dire l'antiterrorisme judiciaire en France est ultra performant, il faut mettre l'administration au niveau. Donc vraiment, au niveau judiciaire antiterroriste, on ne peut pas... Est-ce que je suis très très longue là ? Ça va ?
Pardon. Je regardais l'heure, juste, ouais. Je n'avais plus de notion, mais je t'en prie.
Pardon. Le résultat, il est connu. Ce n'est pas un résultat que je projette. Hein. C'est ce qu'on a vu avec le réseau Chalabi, avec les Moudjahidines du peuple, tout ça dans les années 90. Le système, c'est le système des coups de filet. Le coup de pied dans la fourmilière, ça c'était le juge Bruguière hein, qui était à la tête du pôle antiterroriste il y a quelques années. Donc ça veut dire arrestation et détention provisoire en masse. Ça veut dire une proportion énorme de non-lieux et de relax. Alors, un critère hein, d'une bonne justice, même si c'est pas un critère indiscutable, c'en est quand même un. C'est le taux de condamnation. Et le taux de condamnation en matière terroriste, il est très très faible. Pourquoi ? Parce que ce système du coup de pied dans la fourmilière, c'est les poursuites elles-mêmes en fait qui ont du sens. Il faut briser les gens vite, casser les rapports, non pas châtier des crimes, mais en fait rechercher, punir des potentialités, des relations qui sont en train de se faire, et pas des actes manifestés. Donc peu importe finalement, si on a juste eu une longue garde à vue et un peu de détention provisoire, ça y est, tout ce qu'on a pu soupçonner est écarté. Et ce qui est terrible, c'est que cette voie qui est ouverte par l'antiterrorisme, de rechercher des potentialités et de casser quelque chose avant même qu'il ne se soit manifesté, il s'approfondit, il s'étend dans d'autres domaines. Par exemple, depuis pas très longtemps, on a dans le droit français la rétention de sûreté. C'est la poursuite de l'enfermement, pour n'importe quelle peine, hein, pas nécessairement terroriste, après la fin de la peine. T'es condamné à 20 ans, et ben tu vas rester 25 ans. En cas de soupçon de dangerosité qui se poursuivent. Ça contrevient au principe fondamental de l'égalité des délits et des peines, qui dit que il n'y a pas de condamnation sans texte, et il n'y a pas de peine sans condamnation. Et donc en fait, on entre aujourd'hui dans le droit pénal français, dans un système qui admet les dommages collatéraux. Voilà. Donc, bon, voilà ce que j'avais à dire sur l'aspect judiciaire de la question. Mais même s'il y a dérogation, que le droit commun est de plus en plus infusé d'exceptions, malgré tout, la justice reste le fait d'une institution qui est composée quand même de gens qui sont formellement indépendants et qui déploient ces techniques dans un cadre procédural qui est déterminé, c'est-à-dire qu'il y a un procès qui repose sur le principe de la contradiction dans lequel, théoriquement, le citoyen face à l'État est à armes égales, au sens où il a connaissance de ce qui lui est reproché, au sens où il peut y opposer un argumentaire en fonction de critères qui sont connus de tous normalement, et il peut contester les décisions qui sont prises à son encontre. Mais ça n'est pas le cas du dispositif administratif de lutte antiterroriste. C'est le deuxième volet, ce dispositif administratif. Alors, vous le savez tous, mais un simple rappel quand même sur ce que c'est véritablement que la police administrative. La fonction étatique de maintien de l'ordre, ou plus précisément de maintien des conditions de l'ordre, l'encadrement préalable de tout acte collectif ou individuel qui vise à la prévention de la survenue des dommages ou de la commission d'une infraction. C'est-à-dire que quand on fait sa déclaration préalable de manifester, il faut que la préfecture puisse envoyer un nombre de policiers en nombre suffisant qui sont là pour encadrer, mais qui ne seront pas là pour procéder à des arrestations qui relèvent du judiciaire. Et il y a des différences vraiment essentielles qui comptent vraiment hein, entre l'action administrative et l'action judiciaire en matière de police et qui tiennent à trois ressorts. Ce que je disais en premier lieu, statutairement, il n'y a pas d'indépendance de l'administration. Deuxièmement, ce que je disais aussi, il n'y a pas de procédure contradictoire ni de garantie procédurale, il n'y a pas d'exigence de procès équitable. Mais surtout, dans la police administrative, il n'y a pas d'infraction déterminée, ni même déterminable. Parce que si on peut déterminer une infraction, si on peut donner une qualification juridique, ça veut dire qu'on est déjà, qu'on doit aller dans le champ judiciaire. Et ça, quand même, c'est pas anodin d'avoir ça à l'esprit quand on examine certains des pouvoirs qui sont donnés à la police, avec des pouvoirs spéciaux extrêmement puissants, quand on a vu à quel point la pénalisation était précoce, quand on a vu à quel point c'était facile de qualifier un acte de terrorisme, quand on a vu à quel point c'était déjà de la préscience, de la prédiction et de la recherche de l'intention. Alors, ceci posé, l'action administrative en matière de terrorisme se déploie en deux registres. D'un côté, la surveillance, de l'autre côté, le mode de l'action. En matière administrative, c'est l'entrave, c'est-à-dire pour ce deuxième point, l'entrave, un autre avatar de ce même objectif que se donne le monde judiciaire, c'est-à-dire la neutralisation préventive dont je vous parlais. La surveillance des populations, en fait, on le vit au quotidien, c'est bien simple. Le plan Vigipirate, qui est actif sans discontinuer depuis 1995 et qui habitue tout un chacun à la militarisation de l'espace public. Le gouvernement par la trace numérique. Cet après-midi, il y a une intervention très intéressante sans doute sur cette question-là et sur l'espionnage d'Internet à grande échelle et à échelle individuelle très intrusive qui est légalement admis depuis cet été. Le fichier des passagers aériens qui est étendu à tous les transports depuis cet été encore et la loi renseignement. Les contrôles d'identité et les fouilles de véhicules aux frontières qui sont permis dans des conditions élargies. Et puis aussi la surveillance de masse, c'est-à-dire le filtrage de masse des informations qui passent par Internet. L'IMSI catching, c'est des dispositifs de captation des données échangées par les téléphones portables sur un rayon qui peut aller jusqu'à 2 km. En réalité, dans l'espace urbain, c'est plutôt 200 mètres, mais c'est réglable. Les écoutes téléphoniques, des sonorisations d'espace privé, donc des intrusions individuelles extrêmement fortes, et tout ça sur un plan administratif, c'est-à-dire sans ces garanties, sans cette indépendance, et sans même cette infraction, possiblement déterminable. Concrètement, ça a assez peu d'effet jusque-là sur le terrorisme. Concrètement, c'est surtout très utile à la lutte contre l'immigration clandestine hein, sur un certain nombre de ces dispositifs-là. Il manifeste sa performance véritablement sur le renforcement des frontières de la forteresse Europe. Hein, voilà, l'efficacité
en pleine forme en ce moment.
L'efficacité se vérifie de fait sur les reconduites à la frontière et les expulsions. J'ai pas les chiffres avec moi, mais ils sont extrêmement parlants à ce niveau-là, un premier effet. Et puis un deuxième effet, c'est la surveillance, et puis qui se veut comme objectif, comme but en tant que tel. J'en prends pour exemple le fichage et les circulaires qui sont diffusés dans l'environnement judiciaire, qui expliquent que le fichage ADN est en fait son propre but. Parce que un fichier, il n'est utile et enfin, il est de plus en plus utile et de plus en plus efficace qu'il est d'autant plus fourni, et il est optimal quand il comprend la totalité de la population, et donc on diffuse des circulaires qui demandent à ce que le fichier soit rempli. Pourquoi ? Pour être rempli. Voilà. Donc voilà pour le registre de la surveillance, quelques mots. Et quant au registre de l'action, donc l'entrave, dans lequel se développe le principe de précaution, qui est très à la mode de nos jours, mais qui en matière de liberté publique est quand même un petit peu ennuyeux, et qui peut se développer sur deux terrains dont je vais dire quelques mots. Le terrain de la liberté d'expression d'abord, et puis le terrain de la liberté d'aller et venir, une liberté véritablement physique. Le blocage des sites administratifs est possible. Voilà. Évidemment, le contrôle du monde virtuel constitue un enjeu crucial pour l'État, et la loi du 13 novembre 2014 dont je vous parlais étend aux sites qui font l'apologie du terrorisme la possibilité du blocage administratif, qui avait été antérieurement conçu pour les sites pédopornographiques mais qui n'a jamais été mis en œuvre pour la pédopornographie, qui en revanche l'a déjà été en fait pour les sites faisant l'apologie du terrorisme. Donc l'État peut bloquer des sites internet après avoir imposé aux acteurs privés, hein, puisque en fait ce sont les opérateurs ou les hébergeurs qui font la police du net et qui surveillent et qui font le blocage, sans débat contradictoire préalable, sans toutes les garanties du procès. Donc c'est l'État administratif, en pure censure, qui se fait juge de ce qui peut être légitimement dit en démocratie et de ce qui par ailleurs constitue une infraction pénale, hein, faut le dire, sans offrir aucune des garanties associées à la procédure pénale et à la procédure civile. Donc principe de précaution en matière de liberté d'expression, ça veut dire taisez-vous d'abord, et c'est tout, puisque en fait, il n'y a pas non plus secondairement de possibilité de venir à un débat juridictionnel qui puisse revenir là-dessus. Donc trop tard. Et puis l'entrave physique, trois nouveaux dispositifs qui vont viser très spécifiquement les étrangers, mais qui concernent aussi les citoyens français. Interdiction de sortie du territoire pour les citoyens français. Relégation et assignation à résidence et interdiction de contact pour les étrangers qui sont inexpulsables pour des raisons humanitaires, où la gestion de la frontière est vraiment utilisée comme un outil de contrôle social global. Donc en fait, cette loi, toujours la même, toujours la loi du 13 novembre 2014 antiterroriste, permet d'interdire à une personne étrangère de pénétrer sur le territoire national s'il constitue, je cite, « une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société s'agissant des citoyens européens et pour les non-européens, une menace grave pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France ». Rien à voir avec la lutte contre le terrorisme, il s'agit de filtrer les populations indésirables. Voilà, mais ça marche très bien. Le contrôle s'accroît aussi sur les étrangers qui sont présents sur le territoire national, hein, puisque c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, la peine de relégation. Enfin, ça s'appelle évidemment pas comme ça, mais ça signifie que quelqu'un qui ne pourra pas être renvoyé dans son pays d'origine parce que le droit ne le permet pas, pourra être envoyé en particulier outre-mer et de préférence à Saint-Pierre et Miquelon. Voilà, de façon à ce que il ne puisse pas quoi, continuer à vivre. En tout cas, du moins, l'objectif, c'est qu'il ne puisse pas poursuivre d'activités terroristes. Et puis, l'État peut interdire à ses propres citoyens de quitter ses frontières sur la base, je cite à nouveau, de raisons sérieuses de croire qu'ils projettent des déplacements à l'étranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes ou sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes. Voilà. L'idée là, c'est d'étouffer toute potentialité à la source, d'appliquer le principe de précaution, je vous le disais, au mépris absolu des libertés, en fait. Hein ? D'autant
comme je vous le disais depuis le départ, que cette définition des activités terroristes, jamais, n'est limitée à des actions qui mettraient en danger la vie d'autrui. Hein, des simples dégradations. Et puis, dans une notion extrêmement plastique, extrêmement politique, qui peut être utilisée pour le terrorisme djihadiste là, mais qu'est-ce qui interdirait, ça s'est déjà passé par le passé, qu'est-ce qui interdirait d'appliquer ces notions-là à des activistes qui iraient se rendre sur des lieux de rassemblement contestataires, etc., etc. Et donc finalement, c'est là que je veux arriver au fond, c'est que le terrorisme devient la légitimation d'une entreprise de contrôle social qui est souhaitée pour elle-même en tant que telle. Hein ? Cette fonction de légitimation de l'action étatique est endossée, en fait, par la menace terroriste, que je nie pas par ailleurs, voilà, mais bon, elle est particulièrement visible, avec cette loi renseignement aussi, qui a été votée cet été, et dont je vous parlais. Elle a été présentée comme antiterroriste, cette loi. Elle était préparée depuis, elle était préparée depuis fin 2013, par Jean-Jacques Urvoas et Jean-Christophe Cavard qui avaient achevé leurs travaux bien en amont. Et d'un seul coup, il y a les attentats de Charlie Hebdo qui surviennent. Et là, on arrive à une procédure accélérée sur cette loi qui était de toute façon programmée, puisque il est vrai, quoi qu'il en soit, que les services de renseignement français, que le système du renseignement français devait être mis à niveau parce qu'il était très peu encadré. Et donc, oui, il y avait des choses à faire en la matière, mais pas nécessairement ce qui a été fait. Et donc, le discours autour de cette loi, c'est toujours « il faut lutter contre le terrorisme, il faut se protéger contre le terrorisme », sauf qu'on se rend compte que ce qui fait le contenu de cette loi, il a finalement assez peu à voir avec l'antiterrorisme à nouveau. Le premier article de la loi, c'est les intérêts en défense desquels les techniques de renseignement peuvent être mises en œuvre. Il y en a 9. Évidemment, il y a le terrorisme parmi ceux-là. Mais la plupart, en fait, n'ont rien à voir avec le terrorisme. On a par exemple, je cite au hasard, les violences collectives de nature à porter atteinte à la sécurité nationale. Mais n'importe quelle manifestation porte en elle-même le germe d'avoir une violence collective. On se réunit à plein sur l'espace public. Violence collective, c'est une potentialité complète. Et donc, on va organiser une manifestation, on est écoutable, on est une cible pour le renseignement, très très clairement. Et les débats parlementaires l'ont dit, hein. Plusieurs députés de la majorité ont dit la surveillance est légitime pour les groupements qui seraient suspectés de pouvoir recourir à des actes de désobéissance civile. Voilà, il faut le faire, c'est important pour la sécurité de l'État. Un autre des intérêts, les intérêts économiques, industriels et scientifiques de la France. À nul endroit n'est précisé que les intérêts économiques de la France ne concernent pas les intérêts des grandes entreprises françaises. Donc voilà, on va avoir, je ne veux citer personne, mais telle grande entreprise de bâtiments et travaux publics qui va lancer un chantier dans une zone rurale éventuellement protégée. Et on va donc pouvoir surveiller les activistes qui vont être opposés à ce projet-là parce qu'ils contreviennent aux intérêts économiques essentiels, etc., etc. Et puis, dans le renseignement, dans les intérêts qui doivent être protégés par le renseignement, la prévention de la criminalité et de la délinquance organisée. Voilà le glissement des techniques de la totalité de l'antiterrorisme vers la totalité du droit pénal. Donc, ce qu'on voit, c'est que tout ce système de surveillance et d'entrave administrative est un danger pour le mouvement social. Et là-dessus, alors, je ne veux pas jouer les Cassandres, mais il y a quand même un rapport parlementaire qui a été condamné, qui a été... Pardon, ça c'est moi qui condamne. Non, en fait, il a été commandé après la mort de Rémi Fraisse sur les techniques du maintien de l'ordre. Et en fait, les conclusions de ce rapport, ce qu'on espérait, c'était par exemple qu'on interdise ou qu'on limite l'usage des lanceurs de balles de défense, des flashballs, etc., etc. Pas du tout, c'est pas du tout ce qui s'est passé. En revanche, il y a une préconisation importante qui a été prise dans ce rapport, mais qui, on va pouvoir espérer, ne sera pas suivie d'effet. C'est l'interdiction administrative individuelle de manifester. Voilà. Non, mais c'est l'application d'une idée qui est absolument imparable en logique. Hein. S'il n'y a pas de manifestants, c'est sûr qu'il n'y a pas de risque de débordement. Voilà. On ne peut pas le nier. On peut pas le nier. Voilà. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est cette convergence des modèles judiciaires et administratifs en un même dispositif de sécurité globale et qui signe la dissolution de la stricte logique juridique qui garantit l'état de droit, qui garantit les libertés, au fond. On a cette logique classique où sont prévus des jugements, où sont prévues des peines, au terme d'un processus qui est long, dont les gens souffrent hein, bien souvent, mais qui permet de respecter le jeu de l'administration de la preuve, le jeu de la régularité des procédures, du respect des droits fondamentaux, etc., et au cours desquels chacun est présumé innocent. Et puis de l'autre côté, il y a la logique sécuritaire, pour laquelle il s'agit de viser des situations, des populations, des intentions à risque, plutôt que des actes individuels. Et donc, ce qu'on vise, c'est la dangerosité virtuelle. On est dans une approche de gestion des risques, dans laquelle on admet nécessairement une certaine marge d'erreur, des innocents pris dans un coup de filet, et une part de liberté individuelle que chacun devra abandonner. Alors, je le disais d'emblée, cette contamination de la logique sécuritaire, gestion des risques, système de probabilité, système de prédiction, retrouve la logique néolibérale. Non pas seulement dans ce que je disais d'emblée, à savoir le néoconservatisme, en ce que la domination capitaliste a besoin d'un dispositif puissant de contrôle social pour prospérer, mais aussi de façon intrinsèque. Parce que cette façon même, cette façon-là de concevoir la sécurité, en fait, elle répond à la logique néolibérale elle-même, c'est-à-dire d'appliquer aux institutions de l'État la logique managériale. Quand on entre dans un raisonnement qui tend à mesurer les ratios coûts-bénéfices en termes de gestion des risques, quand on applique une norme qui est fluide, qui est souple, qui est allégée, qui est de la gestion de flux, en fait, on répond beaucoup mieux aux objectifs qu'on assigne à l'État néolibéral, plutôt que d'appliquer une logique juridique qui impose de s'encombrer de liberté individuelle, de respect des droits fondamentaux, etc. Or, c'est sur ces bases-là, en fait, sur ces bases qui sont profondément dévoyées sur le plan politique, sur le plan philosophique même, hein, en fait, que à la fois les médias et les gouvernements successifs nous rebattent les oreilles systématiquement, c'est ce que tu disais en introduction, avec cette dialectique faussée, sécurité-liberté, en sous-entendant, ou en sous-entendant même pas d'ailleurs, que les deux notions fonctionneraient forcément en vase communicant.
Et s'excluent l'une l'autre.
S'excluent l'une l'autre, qu'il faudrait donc abandonner un peu de l'une pour avoir un peu plus de l'autre, et puis alors toujours dans le même sens évidemment, hein, et les poser comme des valeurs équivalentes. Alors, soit dit au passage, j'ai lu dans le Canard enchaîné de cette semaine qu'au ministère de l'Intérieur, les gens sont très très embêtés, puisque sur le plan législatif, ils se disent au taquet de ce qu'on peut faire en matière d'antiterrorisme, aussi bien sur le plan administratif que sur le plan judiciaire. On ne peut pas plus, là, en termes d'abandon de liberté au profit de la sécurité, on est au max. Hein. Donc voilà. Et cette dialectique faussée sécurité-liberté, c'est le contresens énorme qui a été fait en premier par Alain Perfit, qui a été fait par Estrosi, puis par Ciotti, et qui assène à répétition que la sécurité, c'est la première des libertés. Mais la réalité, c'est que les mots, en fait, la vraie terminologie de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, c'est que c'est la sûreté qui est un droit fondamental. Et la sûreté, c'est quoi? C'est le droit d'être défendu contre l'arbitraire de l'État. Donc, mon propos, c'était de dire qu'il ne s'agit pas de nier la réalité de la menace terroriste, c'est de dénoncer la menace qui viendrait s'y surajouter d'être soumise à l'arbitraire de l'État et de laisser les gouvernants successifs saper la démocratie au motif de la défendre.
Vraiment, de te remercier. Pour ceux qui ne connaissaient pas le sujet, vous êtes rentrés pensant connaître une République française, vous allez ressortir en sachant dans laquelle vous vivez. C'était aussi un peu le but de ce débat.